ma connaissance, je crois, c'est de ne jamais parler de ce que je maîtrise mal ou ce que je ne maîtrise pas. Et très sincèrement, ce qu'il va évoquer aujourd'hui est d'ailleurs suffisamment nouveau pour en être au premier stade de l'exploration, et je serai donc le premier à l'écouter avec énormément d'intérêt et à apprendre sans doute autant que vous un certain nombre de choses. Christian, c'est pas n'importe qui, et c'est vrai qu'il y a entre nos deux universités et nos deux facultés de droit et nos deux services de droit constitutionnel une histoire qui ne s'est, je crois, jamais matérialisée autant qu'aujourd'hui par des relations humaines de complicité et de sympathie. Je dois dire, et je ne vais pas jouer aux anciens combattants, que j'ai ici à mes côtés, dans le monde universitaire, ce qu'on pourrait appeler le petit-fils de celui que je ne connaissais pas, mais à qui je dois tout. En effet, il y avait à l'université de Liège une tradition du droit constitutionnel qui n'existait nulle part ailleurs et qui a été initiée par François Perrin, qui est sans doute le seul qui a, en moment où c'était presque inimaginable, sorti le droit constitutionnel de la naphtaline, estimé que ça pouvait être une matière qui échappait aux affres un peu compassées de la magistrature, et qui a osé, je crois, ce lien qui était profond entre une matière enseignée et la vérité du terrain, qui a aussi osé, et quel cadeau au monde intellectuel, dans le domaine du droit constitutionnel, une impertinence de tous les instants. Et moi, jeune étudiant, je vouais à François Perrin une admiration que je ne vouais pas forcément à ceux qui fréquentaient les chaires de droit constitutionnel de mon université. Et sans l'avoir beaucoup rencontré, j'ai croisé deux, trois fois dans ma vie, mais après l'avoir beaucoup lu, je sais que je lui dois beaucoup. Et je suis convaincu qu'à sa manière, parce que les personnalités de Jean-Claude Scholzen qui lui a succédé, et de Christian qui est là aujourd'hui, sont très différenciées. Mais il y a une culture, et il y a certainement une culture que François Perrin a initiée, qui était celle d'un droit constitutionnel ouvert sur le monde. Alors, plus ouvert sur le monde que Christian, il n'y a pas. C'est-à-dire que, d'une part, il occupe un commentaire permanent de la matière, et Dieu sait que c'est précieux, et Dieu sait qu'il est utile que ce ne soit pas trusté par l'un ou l'autre. Et surtout, il a cette qualité extrême, à la fois d'avoir un ancrage intellectuel dans sa matière, de la connaître parfaitement bien, et puis aussi d'avoir cette capacité d'être un vrai juriste pur et dur en éprouvette. Pierre ne me démentira pas, puisqu'il fréquente ce lieu tellement étrange pour ceux qui ne le fréquentent pas, qu'est la section de législation du Conseil d'État, où l'on dit que sa voix forte et haut perchée se fait entendre, mais d'abord pour la qualité de tout ce qui peut être son analyse. Enfin, Christian fait partie, je crois, de cette catégorie de juristes modernes qui ne répugnent pas à avoir des liens, je le répète, avec la vraie vie et dans le domaine qui est le nôtre, avec le monde politique, où ils ne considèrent pas, et Dieu sait que c'est précieux, qu'il y a entre l'université d'une part et le monde politique d'autre part un fossé tel qu'on a le sentiment que les uns sont les pestiférés des autres. Ce qui a longtemps été le cas, jusqu'à ce qu'un de nos éminents prédécesseurs décide de ne plus être pestiféré ou de passer d'un cas à l'autre, mais c'est un cas très 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 à part. Enfin, et là je peux vous mettre en garde, en tant que Christian, c'est quelque chose de... c'est une expérience presque métaphysique. Et il y a deux types de problématiques auxquelles vous pouvez vous préparer très vite, parce que ça va être en temps réel, vous allez, pas le supporter au sens négatif du terme, mais en tout cas vivre ces deux dérives potentielles du discours, qui est le fait qu'à un moment donné, le français se transforme en allemand et l'allemand en anglais. Ça peut arriver à tout moment, et il faut être prêt. Et le pire, c'est quand il parle flamand. Admirablement bien, et là, très sincèrement, moi, je ne suis plus. L'autre danger, mais là, c'est une admiration profonde, parce que je serais bien incapable d'arriver même à sa cheville, c'est une mémoire universelle des chiffres. Que ce soit des articles de texte normatif ou des lignes de budget, cet homme est capable de rendre intelligibles des chiffres là où je crois personne ne peut le faire mieux que lui. Il me reste à lui laisser la parole.
Que dire après une telle introduction, chers amis? Merci, qu'elle était bien trop généreuse, bien trop aimable. Je t'en remercie du fond du cœur, et sois assuré que L'estime est non seulement réciproque, mais par ailleurs, je nourris le projet de te convier pour un cours, le cas échéant, à Liège. Nous verrons si l'agenda le permettra cette année-ci, sinon, en toute hypothèse, au cours de l'année académique prochaine, pour donner une matière, à la rigueur que j'aurais déjà préalablement donnée. Et alors, une seconde fois, le cas échéant, vu par toi, ce sera, je crois, un très bel exercice pour les étudiants de recevoir une même matière enseignée deux fois. On pourrait penser à la royauté, on pourrait penser à plein de choses. Et je tiens donc non seulement à te remercier, mais à vous remercier, et en particulier aussi Vincent, qui a eu la gentillesse de me contacter il y a quelques mois pour me demander si je pouvais envisager de donner une conférence, et il n'a même pas terminé la phrase, je lui ai déjà dit oui. C'est moi qui le remercie pour l'invitation, et je vous remercie de vous être libéré au temps de midi dans un endroit aussi aisé à se stationner que celui-ci. Je suis garé à peu près de l'ambassade de Libye, enfin vous ne voyez pas où c'est, mais c'est bien loin, et donc je mesure que vos difficultés ont dû être à peu près les mêmes. Sujet duquel j'aimerais vous entretenir quelques instants est celui de la défédéralisation du transfert des allocations familiales. Vous pouvez me dire, ouais, mais quel est le lien entre le droit constitutionnel et cette matière? Je me suis posé un jour la question quand j'annonçais à un collègue espagnol que le lendemain j'allais faire une conférence, ensemble d'ailleurs avec Benoît Bayenet, pour l'association des hôpitaux Santéo, et alors le collègue espagnol me demande, mais vous faites quoi ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Et la réponse est évidemment du droit constitutionnel. À partir du moment où vous avez transfert de compétences, vous êtes amené à toucher des domaines auxquels a priori le constitutionniste non pas ne s'intéresse pas, mais ne touche pas, tout simplement parce que c'est très étranger à son domaine habituel de travail. Cette sixième réforme de l'État a cette énorme particularité de commencer quelque chose qu'on n'a jamais fait préalablement dans les cinq réformes antérieures, entrez, je vous en prie, à savoir transférer non seulement des domaines qui relèvent du budget général de l'État, mais aussi de transférer des domaines d'activité qui ne relèvent pas de ce budget. Alors, un petit mot quand même sur le budget général de l'État, la dernière version, vous la trouverez au Moniteur belge du 17 juillet de cette année-ci, qui tient compte du premier ajustement budgétaire. Et alors, autant vous dire que tous les chiffres sont publiés, c'est vrai, mais ce que le législateur ne fait jamais, à mon avis précisément pour amuser des gens comme nous, c'est qu'il ne vous donne jamais les totaux généraux. Donc si vous voulez calculer tout ça, il faut additionner ça un par un, poste par poste, enfin les sous-budgets. Donc le budget général des dépenses de l'État fédéral pour l'exercice actuel est environ de 106,5 milliards d'euros. Donc Moniteur belge 17 juillet de cette année-ci. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que de ces 106 milliards, un certain nombre de milliards sont transférés dans le cadre de la sixième réforme de l'État. Pour confirmer la rumeur, that is nothing new. We already did this. Ça, on a déjà fait à nombreuses reprises. La bonne réponse, c'est pas évidemment combien de fois est-ce qu'on a fait ça. La bonne réponse, c'est évidemment pas 5, parce que la première fois, on ne l'a pas fait. Parce que la première réforme de l'État, vous le savez, n'était pas accompagnée d'un transfert de moyens, c'était toujours le budget central qui dépensait, et c'est la première loi de financement, c'est la loi du 9 août 80, article 1er à 15, qui organisait par une loi ordinaire le financement des entités fédérées. Donc, mais on a quand même déjà fait ça, on a quand même déjà fait ça 4 fois. Donc ça, c'est pas de nouveau, ça. Ce qui est tout à fait intéressant dans cette réforme de l'État, c'est qu'il y a 3 domaines, qui sont des transferts hors budget et qui sont des transferts du budget de la Sécu. Et ça, c'est complètement nouveau. Alors, ces 3 domaines sont 1. L'emploi, 4,3 milliards environ. 2. Les soins de santé, 4,2. À nouveau, les chiffres, il faut prendre ça avec des pincettes parce que souvent, c'est des chiffres 2011 actualisés dans la mesure du possible. Mais bon, quand on sera en 2014 vraiment, on verra. Et puis alors, 3e domaine, les prestations familiales. Un bref mot quand même sur les domaines desquels je ne parlerai pas, c'est-à-dire l'emploi et soins de santé. L'emploi, qu'est-ce qu'on transfère, sachant que les allocations de chômage resteront fédérales et que leur montant ne pourra pas être modifié par les entités fédérées. Mais ce qui est notamment transféré, c'est les titres-services, c'est notamment les conventions de premier emploi, c'est notamment congé éducation payée, tout ça dorénavant devrait être pris en charge par les entités fédérées, et puis surtout les groupes cibles. Les groupes cibles, ça veut dire que vous voulez mener une politique d'emploi, à l'égard d'un groupe si particulier, ben c'est vous qui allez payer ça. C'est vous qui allez payer ça. Alors, donc, ça, 4,3 milliards sortiront donc du budget de l'ONU pour être transférés aux entités fédérées, ici les régions, pour mener cette politique. Deuxième pan, et je les présente expressément dans cet ordre-là, parce que là, vous avez une régionalisation de compétences de la Sécu. Dans les deux autres cas, les soins de santé et les prestations familiales, c'est une communautarisation. Donc, non seulement c'est la première fois que on prend des montants du budget de la Sécu pour les donner aux entités fédérées, mais en plus, on ne les donne pas toujours aux mêmes. L'emploi aux régions et alors les soins de santé et les allocations familiales aux communautés. Alors, soins de santé, 4,2 milliards. Là, quand même, quelques éléments, parce qu'on se dit, ouais, mais bon, finalement, l'INAMI reste fédéral, toujours reste fédéral. Évidemment, l'accord institutionnel qui a été transmis ensuite dans un document parlementaire, de la fin décembre 2011, qui fait partie de l'accord institutionnel. Dans la partie accord institutionnel, vous avez plusieurs documents, c'est le bar 16, ça c'est celui sur la réforme de l'État. Et là-dedans, on vous explique alors ce que c'est, et notamment quand même, toute une série de prestations médicales, je vous donne la liste, les ORL, les psy, on dit juste psy dans le texte, dans le document parlementaire 1964, bar 16, psy, toxicomane, malentendant, déficience visuelle, rééducation psychosociale pour adultes, rééducation fonctionnelle pour troubles précoces et désintégrations parents, etc. Mais aussi soins de santé mentale, c'est quand même plus important. Et puis évidemment, et on dit ça, comme si c'était rien, les sous-parties A1 et A3 du BMF. Le BMF, c'est le budget des moyens financiers des hôpitaux, et les sous-parties A1 et A3 sont respectivement l'infrastructure et le matériel médical lourd. Matériel médical lourd, c'est notamment les IRM, donc ce sont des choses relativement importantes, qui seront donc transférées aux entités fédérées, c'est-à-dire aux communautés et à Bruxelles et à la COCOM. Alors, c'est pas de la petite bière, ça, et je dois vous dire qu'on verra ça sur 20 ans. Au début, forcément, si vous arrêtez les investissements aujourd'hui, le premier jour, vous n'avez rien qui se passe. C'est toujours comme si c'était hier. 20 ans plus tard, vous verrez la différence, et je pense qu'on verra une différence d'aspect, de qualité, sans doute, entre un hôpital flamand et un hôpital du sud du pays ou du centre. Je crois qu'on verra ça, sauf si au sud, et j'aurai ensuite terminé avec ce volet, sauf si au sud, on a l'intelligence, le cas échéant, de procéder au regroupement et à se dire que il ne sera plus possible d'avoir un instrumentarium de matériel médical lourd partout dans le pays, au sud, à Arlon, à Virton, à Bertry, à Saint-Hubert, à Neuchâteau. Il va falloir l'avoir quelque part, oui, mais pas partout. Et alors, ici, on peut dire ça, nous sommes à l'université, il n'y a personne qui jette des œufs. Ceci dit, je salue notamment l'intelligence de quelqu'un qui, à l'époque, était encore secrétaire général des mutualités socialistes, c'est-à-dire Jean-Pascal Lavic, qui a dit ça publiquement dans un congrès à Namur, des mutualités socialistes, en disant il va falloir faire ça. Je suis d'accord, il va falloir faire ça. Donc, voilà, donc ça, c'est des soins de santé, budget INAMI. Et maintenant, je vais brièvement, avant de vous parler un peu des transferts concernant exactement la sécurité sociale en matière d'allocation familiale, quand même, un bref détour par le système de sécurité sociale. Alors, je sais qu'il y a des personnes hautement mieux qualifiées que moi dans la salle pour parler du système de la Sécu. J'en vois plusieurs têtes qui me paraissent particulièrement avisées pour conférer sur le sujet, mais malgré tout, je souhaiterais le faire parce que ces personnes me seront indulgentes à mon égard. Ici, c'est d'une manière latérale au sujet, mais je dois quand même en dire un mot. Et si vous demandez où sont les prestations familiales dans le système de la sécu sociale belge, 5,9 milliards, selon l'accord, on sera à 6,4, loi spéciale de financement, on est à 6,4. Mais donc vous voyez, les chiffres depuis 2011 montent. Donc, mais l'accord initial parlait de 5,9. Bon, prenons ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et trois allocations différentes sont concernées, les allocations familiales au sens strict, les primes d'adoption et les primes de naissance. Donc, Gezinsbijslagen, ça c'est le terme général, prestation familiale, pardon, et alors allocation familiale. Et là-dedans, vous avez les Kinderbijslagen, et puis alors vous avez les Geburtsprämies, Adoptionsprämies, donc les primes de naissance et d'adoption. Ça, c'est 5,8 et un petit 100 millions pour le FESC, le Fonds d'équipement de services collectifs, qui fait l'accueil extrascolaire, l'accueil d'enfants malades, l'accueil d'urgence, etc. Sera transféré aux communautés aussi. On aura, si chaque communauté veut en faire un, on aura 4 dans ce pays. Évidemment, l'économie d'échelle n'est pas nécessairement atteinte avec ce genre de mesures, mais ce n'est pas l'endroit d'en parler. L'accord est ce qu'il est. Et maintenant, je vais vous dire où ça c'est dans l'arborescence de la sécurité sociale, parce que c'est ça qui est intéressant. Et comme vous le savez, la sécurité sociale fonctionne dans notre système selon le mode de la gestion globale. C'est-à-dire que l'ONSS a en son sein plusieurs organismes distincts qui mènent des politiques de sécurité sociale, mais qui ne sont pas financés d'une manière étanche. Avant, c'était comme ça. Mais alors, ça crée évidemment des sous-financements et des surfinancements. Et donc, maintenant, il existe un comité de gestion de la sécurité sociale qui procède à des rééquilibrages s'il y a une branche qui est plus déficitaire que l'autre. Les mauvaises langues diront qu'elles sont toutes un peu déficitaires, mais quand même, voilà. Donc, vous avez, si vous voulez, au total, 8 branches dans la gestion globale, une dehors. Les 8 branches dedans sont, ben, évidemment, l'INAMI, ça c'est l'assurance maladie invalidité, les pensions du secteur privé, parce que le public c'est un peu différent, l'assurance chômage, l'assurance contre les accidents de travail, l'assurance contre les maladies professionnelles. Alors, et puis, 6 et 7e, ça c'est à nouveau, tout ça c'est historiquement, historically grown, historiquement né. Vous avez 2 mécanismes spécifiques pour les marins de la marine marchande. C'est à Anvers, mais c'est fédéral, donc c'est bilingue. Je me suis intéressé au statut linguistique, ce truc, ça existe. Vous avez des francophones, un cadre francophone à Anvers qui gère ça. Donc, voilà. Et, entre guillemets, j'espère qu'on ne va pas donner tout ça uniquement à la communauté flamande, et qu'on, parce que, hein, dans ce cas-là, on a complètement abandonné quelques maîtrises francophones sur la marine marchande. Et c'est le placement des marins et shoregangers, désolé, mais le mot est en anglais, de la marine marchande. Et puis alors d'autre part, l'assurance maladie invalidité des marins. Parce qu'ils ne sont pas dans le système, mais ils sont quand même dans la gestion globale. Et alors 8e précisément, les allocations familiales. Donc ces 8 branches-là sont dans la gestion globale. Et il y en a une qui n'est pas dans la gestion globale, qui est la 9e. Qui sont les vacances annuelles. Parce que les vacances annuelles n'ont pas besoin d'être dans la gestion globale pour une raison très simple. Si vous cotisez et vous avez droit à votre pécule et vos vacances en fonction du traitement que vous avez perçu l'année avant. Et donc, en principe, il ne pourrait jamais y avoir de déficit ou de surplus puisque ça tombe toujours juste. On retient juste l'argent une année et puis on vous le donne. Donc l'Office national des vacances annuelles n'est pas, en principe, dans la gestion globale. Ça n'a pas besoin de l'être. Alors vous allez me dire, oui, mais donc l'ONSS fait tout ça, est-ce que c'est tout? Non, parce qu'il y a encore des indépendants. Et les indépendants sont gérés, eux, par l'INASTI, c'est-à-dire par une structure à part, mais qui participe à la gestion globale. Et puis encore, mais purement anecdotiquement, il y a encore les ouvriers mineurs, qui est un truc totalement différent. Vous allez me dire, il n'y en a plus dans ce pays. Mais le problème, c'est que vous avez toujours des veuves, enfin voilà, vous avez des gens qui sont morts un jour, mais dont l'épouse se porte très très bien et vit très très longtemps. Et donc, il y a toujours encore des montants à payer. Si vous épluchez un peu les budgets de l'ONSS, vous allez trouver qu'il y a toujours des montants à payer pour les ouvriers mineurs. Donc, tout ça ensemble est la sécurité sociale belge. Alors, pour avoir une idée à peu près du montant, vous trouvez tout, hein. Vous trouvez entre 75 et 100 milliards. En fait, tout dépend de ce que vous incluez là-dedans, hein. Donc, la grande difficulté, si comme juriste vous vous intéressez à ce genre de truc, c'est que vous avez à propos d'un même truc plusieurs chiffres qui sont tous exacts, mais parce que les paramètres sont différents. Donc, si vous regardez par exemple sur le site même de l'ONSS, on va vous dire que le total de tout ça, c'est 75 milliards, environ. Alors, ce qui est certain, c'est que l'INAMI, c'est-à-dire l'assurance maladie invalidité, c'est quand même 27 milliards de ça. Donc, c'est un gros poste. Les pensions, 20 milliards. Donc, vous voyez quand même que tout ceci, c'est beaucoup d'argent. Mais ça permet aussi de voir que quand on transfère maintenant 6,4 milliards, ce n'est pas rien non plus. Alors ça m'amène à la question de savoir comment est-ce qu'on va les transférer. Et les administrations qui gèrent actuellement les allocations familiales le font selon quatre régimes différents. Désolé, ceci est ultra technique, mais je suis désolé, mais sinon vous ne viendrez pas. Enfin, je me suis dit à la fac de droit, sinon vous ne viendrez pas. Si je vous dis on transfère ça, oui, ça vous savez qu'on transfère ça. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Et donc, comment se répartissent les montants des 6,4 milliards qui sont actuellement payés en termes d'allocations familiales et alors de primes de naissance et d'adoption? Et ça marche comme ceci. Il y a d'abord le régime des travailleurs salariés. Ça, il y a des lois coordonnées sur les allocations familiales de 1939 qui règlent cela. C'est la part de lion du système, mais le problème, c'est que ce n'est pas tout. Et comme ce n'est pas tout, eh ben, c'est le reste qui rend ça un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que je crois que ceci est le défi. Permet de dire que la loi spéciale qui organise le transfert de compétences, document Sénat 2232, dit d'une manière extrêmement placide, les compétences en matière d'allocation familiale sont transférées au 1er janvier 2014 aux communautés à la COCOM. Point. Voilà. Et puis, article 94, paragraphe 1er bis, clause de transition, mais voilà, voilà, très que plan. Donc, l'action du fédéral se limite à ça. Voilà, se transférer. Voilà. Et donc, je peux très bien comprendre, évidemment, l'attitude du gouvernement fédéral, qui dit, mais on a fait notre job, c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez faire en fédéral en plus, puisqu'il s'agissait de transférer. Mais, beste Freunde, chers amis, pour ce qui est des entités fédérées, là, mais pas sorti de l'auberge, hein. Parce que maintenant, il va falloir organiser ça. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de vous décrire le système fédéral actuel, et puis alors, vous pouvez faire du brainstorming pour savoir comment on va faire au niveau fédéré pour organiser ça. Voilà. Donc, actuellement, comment est-ce que ça marche au fédéral? Ça marche comme ceci. Il y a un premier système, un premier pan, qui inclut les personnes qui sont des travailleurs salariés. Employés, ouvriers, qui sont régis par la loi des lois coordonnées de 1939. Et alors là, il y a un système qui est le suivant. Il y a une cotisation de 24,77% de cotisations sociales patronales qui sont payées à l'ONSS, dont à peu près un tiers, c'est-à-dire 7% correspond aux cotisations payées pour les allocations familiales. Même si vous n'avez pas d'enfant, vous payez ça. J'insiste beaucoup là-dessus parce que vous allez voir, ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Et directement à l'ONSS, cotisation sociale patronale. Et puis alors sur le salaire que reçoit l'ouvrier ou l'employé, il y a 13,07% qui sont payés. Mais sur les 13,07%, attention, il n'y a aucune quote-part prédéterminée qui correspondrait au montant des allocations familiales. Il paye 13,07%, mais on ne sait pas quelle quote-part de cela est la partie affectée aux allocations familiales. D'autre part, même sur les 24,77%, les 7% qui sont censés correspondre aux allocations familiales ne correspondent dans les faits pas aux allocations familiales. C'est-à-dire que c'est un montant historique, mais qui était à un moment donné juste, mais qui n'est plus juste. Donc, il y a un prélèvement patronal pour les allocations familiales dont le montant ne correspond pas au paiement final. Mais il n'y a plus de problème, depuis qu'il y a la gestion globale, il n'y a plus de problème théorique, puisque de toute manière, les flux vont dans tous les sens. Donc, il n'y a plus de problème. Mais je vous explique ça. Pour les indépendants, ça ne marche pas du tout comme ça. Pour les indépendants, il y a des taux différents. Et surtout, les indépendants vont payer ce montant qui est différent chez eux, qui est d'abord de 22%, et puis sur une certaine tranche, et puis 14%, ne le payent pas à l'ONSS, ni d'ailleurs à l'INASTI, mais le paye à des caisses d'indépendants. Donc les cotisations sociales ne sont pas payées à la même institution. Les indépendants payent ces montants-là à des caisses. Ce sont les caisses qui en informent l'INASTI. L'INASTI recalcule le tout, procède à la gestion globale avec l'ONSS, et puis reverse les montants. montants qui ne sont pas identiques pour les travailleurs salariés, comme vous le savez. Donc, ce qui est important, c'est de voir que il ne s'agit pas de constater que l'indépendant a 4 euros de moins que le travailleur salarié. Ce n'est pas ça le problème. Ça peut changer ça demain matin. Ce n'est pas le problème, ça. Le problème, c'est que toute la perception des cotisations n'est pas du tout organisée de la même manière. Parce que pour le travailleur salarié, je vous ai dit, l'argent va à l'ONSS. De l'ONSS, il va à l'ONAFT. Et de l'ONAFTS, il va à des caisses qui, elles, payent. Maintenant, si vous ne voulez pas vous affilier à une caisse, ce que vous trouvez... ça va pas bien de vous assurer une caisse, tant l'ONFTS que l'INASTI jouent le rôle de caisse auxiliaire, comme souvent dans notre système, comme la CAPAC pour les allocations de chômage, pour celui qui ne veut ne s'affilier à aucune caisse. Alors dans le système ONFTS, il y a 15 caisses, plus l'ONFTS lui-même, donc ça c'est pour le travailleur salarié. Et alors pour les indépendants, là il y en a 11, plus l'INASTI lui-même. Bon. Vous allez me dire, ouais, d'accord, maintenant finalement, ça y a quand même moyen. Oui, bien sûr, il y a moyen. Tout ça, c'est possible, mais il faut juste savoir que c'est compliqué. Parce qu'à côté de ça, encore deux régimes autres, la fonction publique et les prestations familiales garanties. Alors, les prestations familiales garanties, c'est une loi de 71 qui dit, voilà, si vous êtes nécessiteux, ben, évidemment, on ne va pas vous supprimer des allocations de familiales au moment même où vous perdez votre emploi. Ce serait, évidemment, totalement inique. Et donc, bien sûr, vous avez des prestations familiales, même si vous êtes au chômage. Mais bien sûr, ça c'est un régime qui n'est pas basé sur les cotisations des personnes bénéficiaires. C'est très évident, puisqu'il n'y a pas de cotisation, puisque vous êtes au chômage, précisément. Donc, ça, c'est à payer avec l'excédent de la gestion globale. Donc, il faut prévoir dans la gestion globale des montants pour les prestations familiales garanties. Enfin, dernier régime, c'est celui de la fonction publique. Alors, la fonction publique, malheureusement, est divisée en 3 sous-régimes. Ah oui, ah, tout ça est historiquement né. Hein. Le régime le plus simple, hein, c'est l'article 101 des lois de 39, c'est-à-dire un renvoi au système pour les travailleurs salariés. Ça, c'est facile, ça. Donc, vous faites comme si vous étiez employé d'une banque, vous êtes en fait fonctionnaire ministériel, mais même chose. Dans ce cas-là, vous payez 7% de cotisation, voilà. Et ce sont exactement les 7% que les autres payent aussi, hein, au titre d'allocation familiale. Il y a d'autres fonctionnaires qui sont des fonctionnaires locaux provinciaux et qui ont un organisme à part qui est l'ONSS-APL, l'Office National de Sécurité Sociale pour les administrations provinciales et locales, duquel je ne vous ai pas encore parlé, mais on ne peut pas faire tout à la fois, n'est-ce pas? Bon. Donc, celui-là gère la sécurité sociale des fonctionnaires locaux et provinciaux, et donc aussi les allocations familiales de ces personnes-là. Ça, c'est donc l'article 32 des lois coordonnées. Là, la cotisation, attention, hein, Prilette, hein, n'est pas de 7%, mais de 5,25 seulement. Intéressant, ça. Donc, vous touchez le cas échéant des montants qui sont identiques, mais vous n'avez pas payé les mêmes cotisations. Ah oui. Enfin, et ça c'est évidemment, ça c'est le truc qui, à mon avis, n'est pas viable. Ça, c'est pas viable, à moins de... We have to stop with this. À mon avis, ça c'est... Dans quelques années, on regardera ça, à mon avis, comme le dinosaure du droit, on n'aura plus ça. Parce qu'il existe une dernière sous-catégorie à l'intérieur du système de la fonction publique, qui est le régime dit hors solidarité nationale. En fait, dans ce cas-là, le système est le suivant. Vous êtes employé, vous êtes fonctionnaire d'une institution, par exemple l'Université de Liège, nous faisons ça. Hein. Donc on va devoir changer. La WEX fait ça aussi. Il y en a à peu près, il y en a 22 organismes qui font ça, en nette diminution de plus en plus. Et en Flandre, il n'y en a presque plus. Donc ils ont vu clair. Hein. Stop for it. Hein. C'est que, il y a encore un certain nombre, donc, mais l'Université d'Antwerpen l'a quand même encore. Hein. Mais alors, ce qui est intéressant, notamment, l'ONEM a ça, donc c'est tout à fait intéressant. L'ONEM du fédéral a tout ça. C'est ceci. C'est que vous vous dites comme fonction publique, mais au fond, pourquoi cotiser? Je paye sur mon propre budget les allocations auxquelles auraient droit mes fonctionnaires. Vous pouvez me dire, mais quelle est la différence? Mais la différence n'est pas si insignifiante que cela, parce que si votre fonctionnariat est plutôt âgé, ils n'auront moins de cotisations, vous aurez moins d'allocations à payer. Ben, si le Conseil d'État avec limitage de 70 ans, ben, en fin de carrière, il y a peu d'allocations à payer. Et donc finalement, un tel système peut, dans certains cas, vous générer des avantages. Parce que vous devez en fait payer que les allocations qui sont à... Enfin, qui échouent dans votre fonctionnariat, qui sont vos fonctionnaires. Et c'est pour cela que ce système s'appelle hors solidarité nationale, parce qu'en fait, vous n'êtes pas du tout solidaire. Vous avez votre budget de fonctionnement, et avec celui-là, vous payez annuellement les montants des allocations. Alors pour le fonctionnaire, ça revient à la même chose, évidemment. Alors, ce système, on va y mettre fin, donc il convient de déterminer une cotisation qui sera prélevée. Ça, c'est en cours, hein. Pour l'instant, ça, c'est un phénomène qui s'accentue, puisqu'évidemment, il va falloir mettre fin à ça, sinon ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que on va devoir mettre fin, et maintenant je vais basculer dans le nouveau système et la manière comment ça va s'organiser. On va mettre fin à ça parce qu'évidemment, dorénavant, les entités fédérées vont recevoir des dotations qui seront des dotations pour tous les enfants dont elles ont la maîtrise. On pourra parler du critère de rattachement plus tard, mais en ce compris d'ailleurs pour ces personnes-là, évidemment. Donc il faut éviter les situations où vous auriez, si je prends l'exemple extrêmement simple de l'Université de Liège, si nous avions des professeurs qui habitent Tongres, l'enfant habite Tongres, mais le professeur est professeur de l'Université de Liège, ou vous prenez un agent de l'AWEX, vous auriez un problème si vous restez dans le système hors solidarité nationale, parce que dans ce cas-là, évidemment, l'administration qui serait amenée à payer serait une administration francophone pour enfants qui habitent en Flandre et qui est rattachable officiellement à la communauté flamande puisqu'il y habite. Hein? Donc il faut mettre fin à ça. Mais à nouveau, c'est pas aussi facile que ça. Ça suppose en fait une réorganisation pour toutes ces institutions qui sont encore dans ce système. Mais je crois qu'il faut y mettre fin. L'ADEPS aussi, Hogeschool Gent, il y en a toute une série. Mais aussi pour les cabinetards, hein, ils sont dans ce système aussi. Et, alors, si ça s'est mis fin, ou si ça s'est abrogé, alors on pourra parler de système nouveau, qui est le suivant. Enfin, il n'y a pas d'urgence, hein, puisque c'est jusque dans 2019 que ça peut continuer, mais il faut quand même penser. Nous, en avant, il y aura des dotations qui seront payées aux entités fédérées, dont les montants sont prévus dans la loi spéciale de financement. Dans un nouveau titre 4-1 qui sera inséré dans ce document parlementaire 2974, hein, à la Chambre, et dans lequel il y a, si vous retenez un article, c'est le 47-5. C'est le 47-5 à insérer, hein, dans ce titre 4-1 qui va fixer le montant de base des dotations à payer aux communautés. Donc aux communautés, c'est-à-dire françaises, flamandes et la COCOM. Le financement de la communauté germanophone est dans la loi de 83, comme vous le savez, puisqu'il n'est pas réglé dans la loi spéciale de financement. Et le montant que vous trouvez là est de 6,4 milliards. Alors, il y a tout de suite, après cet article-là, un article 47-6, qui dit on peut augmenter ce montant pour une raison très simple, c'est qu'on ne prend en compte que la clé de répartition enfants de 0 à 18 ans. Le problème, c'est qu'il ne faut pas donner un bad incentive, c'est-à-dire un incitant négatif à l'égard des institutions aussi nobles que celles-ci. Parce qu'évidemment, des enfants, enfin plutôt des étudiants, qui sont des étudiants à l'université, peuvent percevoir des allocations familiales, mais ne rentreraient pas dans la clé de répartition, puisqu'évidemment, si je prends que des enfants de 0 à 18, celui qui a 22 ans, qui est à la fac de droit, qui suit le cours de Mark Huytendaal, mais évidemment, celui-là, ben, il n'est pas financé. Alors, pour éviter cela, il y a un article 47-6 qui dit on peut élargir, pour tenir compte, je cite, du taux de participation des jeunes à l'enseignement supérieur. Il ne faut pas donner un bad incentive, il ne faut pas freiner la politique des universités ou des hautes écoles à précisément pour promouvoir l'enseignement supérieur. Ça, c'est utile, ça. Alors, dans la suite, donc si ça vous intéresse, c'est assez intéressant à lire, c'est un peu technique, mais c'est intéressant à lire, ce sont les articles 47-5 et suivants, parce que alors là, vous avez les dotations pour chacune de ces matières qui est transférée. Par exemple, 47-7, c'est les soins aux personnes âgées, 3,3 milliards. 47-8, 850 millions pour centres de relocalisation, etc. 47-9, 580 millions pour les hôpitaux. Hein, donc vous voyez bien, ça c'est les fameuses infrastructures hospitalières, ça va, hein, voilà. 47-10, maison de justice, parle pas de la COCOM, pas prévu. 47-11, pôle d'attraction interuniversitaire, ça a quand même été maintenu, 30 millions seulement, mais enfin ça a quand même été maintenu. Financement, donc dotation pour ça. Donc c'est que notarisé, mais il y a une dotation qui est prévue pour. Ah, ça c'est bien, parce que sinon on pourrait totalement oublier ça, parce que la communauté française, sa marge est légendaire. Mais donc il y a quand même 30 millions qui sont prévus pour tout le pays. Enfin, et je vais clore très, très, très rapidement, rassurez-vous, et ce n'est pas une clause de cible, vous allez voir, je vais atterrir. Et quand vous avez vu tous ces chiffres-là, il y a tout de même une disposition qui est absolument importante, qui se trouve un peu plus loin, et qu'on ne lirait pas comme ça tout de suite. Mais enfin, forcément, vous savez qu'elle est là, parce que vous avez entendu ça à très nombreuses reprises, et sans doute Benoît Bayonnet vous l'a dit, et dans la presse, vous avez pu le constater. On a toujours dit, oui, mais pendant 10 ans, il n'y a pas de régression possible, vous avez droit au montant initialement prévu, etc. Bon. La fameuse garantie des 10 ans d'abord de pérennité. Alors, si vous commencez la loi spéciale de financement, comme ça à lire, vous dites, mais non, la chien, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Et c'est quelque part. Je vous assure que c'est dedans. Hein, oui. C'est à l'article 48-1 qui est dans un nouveau titre du mécanisme de transition. Et dans le 48-1, ben vous allez commencer au paragraphe 1er, vous ne voyez rien, paragraphe 2, vous fatiguez, paragraphe 3, vous êtes déjà sur le point de renfermer le truc, mais il aurait fallu aller jusqu'au paragraphe 4, parce qu'à l'article 48-1, paragraphe 4, alinéa 1er, vous allez trouver cette belle phrase, le montant de transition fixé par entité, conformément au paragraphe précédent, restera nominalement constant durant les années 2015 jusque 2024 incluses. Puis, à partir de 2025 jusque 2034, sera réduit linéairement sur 10 ans jusqu'à zéro. Voilà. Donc ça, c'est cette fameuse clause importante, évidemment. Hein? Donc elle est bel et bien dedans. Hein? Elle est bel et bien dedans. Ben, c'est un peu illisible, mais bon, elle est là. Bon. Alors, en parlant d'illisible... Tout ceci est très technique, mais ceci dit, ça ne doit pas cacher une lisibilité, et pour répondre à la question qui m'a été posée, pour laquelle est le titre de la conférence. Est-ce que ceci est le début du démantèlement de la Sécu? Il suffit de regarder que la communauté flamande a adopté le 13 juillet 2012 un décret que vous connaissez, décret relatif à la protection sociale flamande. Décret over de Flamse Sociale Beschermde. Là-dedans, on crée une agence pour la protection sociale flamande et qui a vocation à faire toute une série de choses. Donc, l'embryon est là, qui peut recevoir de nouvelles compétences. Pour l'instant, c'est relativement limité, mais le texte est là, l'organe existe, peut être élargi. D'autre part, il est évident que ceci est un test. C'est-à-dire que si on parvient... Certes, avec une période de transition, parce que les difficultés techniques, vous avez pu les constater, sont tout de même assez importantes. C'est impossible de faire ça pour le 1er janvier 2014 ou le 1er juillet 2014 comme ça. Hein. Mais jusqu'en 2009, c'est possible. Et ceci est un test dans la mesure où, évidemment, si je peux transférer ça, il n'y a plus d'obstacle intellectuel à ce que je ne m'attaque pas aux autres branches. C'est pour ça que j'ai pris la peine de les énumérer, hein, ces 9 branches-là. Hein. Je peux imaginer de transférer le fonds des maladies professionnelles. Le fonds des accidents de travail. Bah, foire, si je suis compétent pour l'emploi. Bah alors, l'emploi, en étant employé, je me blesse. Pourquoi? C'est le droit au prolongement de la politique, que sais-je. Aide aux personnes, ma foi, bon. Hein, article 5, hein. Donc, c'est possible, bien sûr, conceptuellement. Ce que, par contre, paraît intéressant à relever, c'est que vous avez trouvé dans les avis de la section législation du Conseil d'État rendu au mois d'août, un petit considérant qui dit tout de même que lorsque le constituant mentionne à l'article 23 de la Constitution le concept fédéral de sécurité sociale, il convient de vérifier si le transfert n'affecte pas cette notion de manière substantielle. Ça, le Conseil d'État le dit tout de même, et dit qu'il y a vérifié, et constate que ce n'est pas, que ça n'affecte pas d'une manière substantielle. Mais enfin, il y a quand même un contrôle. Donc, ce que je crois donc dire, pouvoir dire, c'est que, maintenant, s'il y a une volonté politique, évidemment, de réviser la Constitution, tout est possible, bien entendu. Ça, il n'y a plus, le juriste doit se taire, hein, c'est évident. Mais, pas nécessairement le citoyen, mais le juriste, oui. Le citoyen peut tout de même dire des choses que ça le préoccupe. Mais, il y a donc sans doute lieu de considérer qu'il y a un noyau dur. En quoi consiste-t-il ? Ben, manifestement pas dans les allocations familiales, bon, apparemment, puisque ça ne pose pas un problème. Mais, je vois quand même, si vous regardez les masses budgétaires impliquées, avec 27 milliards dans l'INAMI, et avec 20 milliards dans l'ONP, l'Office National des Pensions, je crois quand même là, on est dans quelque chose de très lourd. Je terminerai en vous disant que la question, évidemment, qui m'a été posée est une question ouverte, et précisément parce qu'elle est ouverte, ma conclusion l'est aussi, mais la vigilance est sûrement de mise. Le juriste ne doit pas oublier que s'il y a une majorité de 2/3 pour réviser la Constitution, pour voter des lois spéciales, c'est certes un gage de stabilité pour le pays dans un certain temps, mais que le pays doit, à mon sens, reposer toujours sur un consensus social de vouloir faire certaines choses ensemble. Ces certaines choses ne peuvent pas être des lignes à haute tension, quelques centrales nucléaires qu'on veut au demeurant démanteler, et une équipe de football et le roi. Et je dois donc vous dire que pour ce qui me concerne, et je crois qu'il y a une parfaite convergence entre nous deux sur ce point, et sans doute sommes-nous pas les seuls, de considérer que dans le contrat social à la Belge, pour prendre un petit peu de hauteur et parler un peu de théorie générale de l'État, le contrat social conçu par Hobbes ou par Rousseau implique tout de même toujours des missions fondamentales de l'État. Même dans le Léviathan, Hobbes dit déjà que l'État doit pouvoir faire quelque chose, doit servir à. Pour Hobbes, c'est la protection vis-à-vis des ennemis de l'extérieur et la paix civile à l'intérieur. Bon, ça c'est 1651, ça c'est le Léviathan. 1761, Rousseau, c'est déjà plus avancé. Mais aujourd'hui, je dirais en 2013, ce contrat social, cette finalité qu'il doit avoir pour ne pas être une clause vide, à mon sens, dans notre pays, inclut notamment une protection que j'aurais tendance à considérer fédérale de sécurité sociale. Je vous remercie vivement pour votre attention.